Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Burundi, au moins 8 soldats tués et des dizaines portés disparus après une attaque près de la frontière avec le Rwanda. Au Nigeria, 4 soldats et un milicien ont été tués dans une embuscade dans le nord-est. 2 otages américains et australiens ont été libérés en Afghanistan. Reprise des auditions publiques au Congrès dans l'enquête en vue d'une éventuelle mise en accusation du président américain. En partie magazine, l'administration Trump change de position concernant les colonies juives en Cisjordanie occupée. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burundi, au moins 8 soldats ont été tués lors de l'attaque dans la nuit de samedi à dimanche d'une position avancée de l'armée près de la frontière avec le Rwanda et des dizaines d'autres sont depuis portés disparus. L'attaque n'a pas été revendiquée. Nathalie Barge.
L'attaque a été menée par un groupe armé très bien équipé, selon les autorités burundaises. Les premiers soldats qui sont arrivés sur place dimanche ont retrouvé 8 corps de soldats tués, dont celui du commandant de la compagnie, le major Révérien Ngomirakiza, indiquait l'armée. 15 rescapés, dont des blessés, ont été retrouvés par la suite, mais le reste de la compagnie est porté disparu. Cette compagnie, composée d'environ 90 soldats, occupait un poste avancé sur la colline de Touignoni, dans la commune de Mabayi. Les soldats ont été surpris par des assaillants équipés de gilets pare-balles et de lunettes de vision nocturne qui ont totalement anéanti cette position, a précisé l'armée, soulignant qu'il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière dirigée contre l'armée depuis 2015.
Le Burkina est désormais entièrement déconseillé aux voyageurs par le ministère français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay a actualisé sa carte de conseil aux voyageurs sur le Burkina. Et désormais, la zone rouge, c'est-à-dire celle qui est formellement déconseillée, a été étendue à une zone couvrant tout le nord, l'est et les frontières ouest. Au Nigeria, 4 soldats et un milicien ont été tués par des djihadistes lors d'une embuscade tendue à leur convoi dans le nord-est du pays. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Selon une source sécuritaire, une colonne de véhicules de l'armée a été attaquée par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, près de la ville de Marthe, dans la région du lac Tchad. Marthe, située à 130 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, a été attaquée à plusieurs reprises. Officiellement, l'armée nigériane a affirmé avoir repoussé l'attaque et obligé les assaillants à battre en retraite sans évoquer de bilan humain. L'embuscade a été appuyée par un engin explosif improvisé, a déclaré le porte-parole de l'armée, le colonel Aminu Aliyasu, dans un communiqué. Depuis juillet 2018, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction dissidente du groupe Boko Haram, a intensifié ses attaques contre des cibles militaires, infligeant de lourdes pertes à l'armée.
Toujours au Nigeria, 14 personnes ont été tuées par des voleurs de bétail dans une attaque dans le nord-ouest du pays. Des assaillants à moto ont fait irruption dans un village isolé de l'état de Zamfara dans la nuit de dimanche à lundi, tuant des habitants et incendiant des maisons. Selon la police, il s'agit de représailles après le meurtre de 9 bandits présumés par des miliciens dans un village voisin le 3 novembre dernier. Les États-Unis ont appelé mardi à un vrai dialogue et un transfert de pouvoir vers les régions anglophones du Cameroun, estimant que la réponse militaire privilégiée par le gouvernement ne faisait que renforcer les séparatistes. Le haut responsable chargé de l'Afrique au département d'État américain, Tibor Nagy, a également relativisé le succès du grand dialogue national organisé début octobre par Yaoundé, pour tenter de résoudre la crise séparatiste anglophone marquée par le boycott des principaux groupes indépendantistes. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, s'est réjoui aujourd'hui de l'élan populaire suscité par la présidentielle du 12 décembre. Pourtant, chaque semaine, des manifestations ont lieu rejetant ce scrutin. Le général Salah a également affirmé que l'armée n'a aucune ambition politique et n'a pour objectif que le bien de l'Algérie et de son peuple. Mais il a également affirmé que l'armée sera aux aguets contre quiconque tente de porter atteinte aux fondements de la nation, à l'intégrité territoriale et à l'unité populaire. L'ancienne première dame du Sénégal, Colette Senghor, épouse de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, est décédée à l'âge de 93 ans à Vierzon, dans l'ouest de la France. Sur Twitter, le président sénégalais Macky Sall a présenté ses condoléances à sa famille.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Coup d'envoi aujourd'hui au Congrès américain de la deuxième semaine d'audition publique dans le cadre de l'enquête en vue de l'ouverture éventuelle d'une mise en accusation du président des États-Unis. 9 témoins ont été convoqués d'ici à jeudi, dont 4 ce mardi. Compte rendu, Jacques Aristide.
Let me ask the question again.
La journée a démarré avec la comparution des deux hauts conseillers qui ont écouté l'entretien téléphonique du 25 juillet dernier entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le lieutenant-colonel Alexander Weinmann, membre du Conseil de sécurité nationale, et Jennifer Williams, sa conseillère spéciale du vice-président américain Mike Pence, ont jugé l'appel inapproprié. Les démocrates accusent le président républicain d'avoir voulu que l'Ukraine enquête sur Joe Biden, un rival potentiel à la présidentielle de 2020.
We don't want to use these proceedings. It's our time, I know, but we need to protect the whistleblower.
Le président Trump a rejeté ces accusations en qualifiant son appel de parfait. Son homologue Zelensky a également nié à maintes reprises que des pressions aient été exercées sur lui. Le président ukrainien s'est même dit aujourd'hui fatigué de cette affaire. Les témoignages se poursuivent cet après-midi, dont celui de l'émissaire américain en Ukraine, Kurt Volker.
Les États-Unis ont annoncé qu'ils ne considéraient plus comme illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Une décision qui a attiré aujourd'hui des réprobations dans le reste du monde, dont l'ONU, l'Union européenne, mais aussi réprobations de pays arabes comme l'Égypte, le Qatar et Koweït. Nous reviendrons sur ce sujet dans la deuxième partie de cette édition. En Irak, les manifestants sont sortis de nouveau aujourd'hui dans les rues en signe de rejet des nouvelles promesses de réforme des politiques. Les députés doivent discuter d'un remaniement gouvernemental, de l'ébauche d'une nouvelle loi électorale et d'autres changements aujourd'hui. Mais les manifestants sur la place Tahrir à Bagdad restent très sceptiques. En Syrie, 3 personnes ont été tuées et 8 autres blessées dans une attaque contre une école dans le nord-est du pays. L'attaque est imputée par les autorités turques à la milice kurde des YPG. La Turquie a lancé le mois dernier une offensive dans le nord-est de la Syrie pour déloger cette milice kurde qu'elle qualifie de terroriste, mais qui est soutenue par les pays occidentaux dans la lutte contre le groupe État islamique. Afghanistan, les talibans ont libéré aujourd'hui 2 universitaires américains et australiens retenus en otage depuis 2016. En échange, le gouvernement afghan a relâché 3 hauts responsables talibans, un geste qui peut servir un processus de paix. Eric Manirakiza.
Les 2 professeurs de l'université américaine à Kaboul, l'américain Kevin King et l'australien Timothy Weeks, ont été libérés dans le district d'Onor-Baral de la province de Zaboul. Les 3 prisonniers talibans ont été transportés à Doha, où se trouve le bureau politique des talibans. Le président afghan Ashraf Ghani avait annoncé le 12 octobre que cette décision très difficile était la condition principale pour démarrer des négociations officieuses en vue de mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis 18 ans. Dans un communiqué, les talibans ont annoncé aussi avoir relâché 10 soldats afghans, affirmant que c'est un pas en avant qui peut aider le processus de paix. Dans un tweet, le président pakistanais Imran Khan a déclaré que son pays a entièrement soutenu et facilité cette libération. Washington a suspendu en septembre ses pourparlers avec les talibans après un attentat revendiqué par les insurgés qui avait coûté la vie à un soldat américain. Un projet d'accord prévoyait un retrait progressif des soldats américains en échange de garanties de sécurité, d'une réduction de la violence et de l'ouverture de négociations directes entre les talibans et les responsables afghans.
La contestation continue à Hong Kong. Des dizaines de manifestants retranchés depuis ce week-end sur un campus ont défié encore ce soir les appels des autorités à se rendre et les menaces d'intervention de Pékin. Débuté dimanche, le siège du campus constitue la confrontation la plus longue et la plus violente avec les forces de l'ordre depuis le début de la contestation en juin. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'essentiel de l'actualité économique, c'est la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Au Gabon, le groupe malaisien Petronas étend son périmètre d'exploration pétrolière et gazière en offshore avec deux nouveaux blocs, révèle la Tribune Afrique. La société prévoit également d'exploiter un des puits de pétrole et de gaz de Boudi l'an prochain. Par ailleurs, elle étudie le gisement de Mbama dont le forage est prévu pour 2022. Air Sénégal a signé un protocole d'accord concernant 8 avions A220 d'Airbus au salon aéronautique de Dubaï. Les appareils permettront à la compagnie aérienne de desservir l'Europe et l'Afrique de l'Ouest après les livraisons en 2021. De son côté, le Ghana a signé avec Boeing une commande provisoire portant sur 3 avions Dreamliner. Ils serviront à la nouvelle compagnie aérienne que le Gabon veut lancer et dans laquelle le gouvernement détiendra 10% du capital, tandis que le reste reviendra au secteur privé. Pour terminer, le Togo et le Bénin devraient bientôt se doter de marchés agricoles intégrés. Cette initiative permettra l'installation de 4 à 6 marchés le long de la frontière Togo-Bénin. La plupart des produits agroalimentaires, végétaux, animaux et halieutiques devraient être concernés. Ce projet coûtera 100 millions de dollars financé à 5% par le Fonds international de développement agricole.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Suite et fin de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.
Oui, défaite surprise des éléphants des Côtes d'Ivoire en Éthiopie 2-1. Les Ivoiriens avaient pourtant réussi à ouvrir la marque dès la 4e minute avec Serge Aurier, avant de se faire rattraper par les Éthiopiens avec un but de Sufarel Dagnachiu. Chimelis Bekele a ensuite signé le but de la victoire. Le Maroc, de son côté, s'est repris après avoir été tenu en échec à domicile par les Mourabitounes de la Mauritanie. Les Lions de l'Atlas ont rectifié le tir à Bujumbura, battant les Hirondelles 3-0. Avec des buts signés Nusair Mesraoui, Youssef N. Nesri et Ashraf Hakimi, les matchs de la troisième journée se joueront en mars 2020.
L'étoile du Sahel recrute Carlos Garrido.
L'Espagnol, ancien coach de Villarreal et du Betis Séville, a été nommé entraîneur de l'étoile sportive du Sahel en pleine phase de groupe de la Ligue des Champions. Le club de Sousse, éliminé de la Coupe arabe des clubs, avait initialement annoncé le mois dernier le recrutement du français Albert Cartier en remplacement du technicien tunisien Faouzi Benzarti. Finalement, c'est Juan Carlos Garrido qui a signé avec l'Espérance sportive de Tunis après avoir entraîné le Raja Casablanca jusqu'en janvier 2019, puis rejoint le Al Ain FC d'Abu Dhabi. L'étoile du Sahel est actuellement 7e du championnat tunisien et doit rencontrer le 29 novembre prochain le club égyptien d'Al Ahly en Ligue des Champions.
Ici en MLS, Thierry Henry plaide la patience face à Montréal.
L'ancien attaquant international français, nommé la semaine dernière entraîneur de l'Impact Montréal, estime que le club est à reconstruire après avoir raté les playoffs lors des 3 dernières saisons. Thierry Henry a indiqué que c'est lui qui a contacté l'Impact après sa première expérience cauchemardesque comme entraîneur à l'AS Monaco. Il a été évincé après seulement 100 jours sur le rocher et 5 victoires en 20 matchs.
Luis Enrique redevient sélectionneur de l'Espagne.
Oui, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui avait quitté son poste en juin en raison de la maladie d'une de ses filles, revient sur le banc espagnol en remplacement de son ancien adjoint Roberto Moreno. Luis Enrique revient aux commandes après plusieurs mois passés en famille auprès de sa fille Zana, décédée fin août à 9 ans. Il conduira donc l'Espagne à l'Euro 2020, compétition pour laquelle Moreno a assuré la qualification. Avec ce retour de Luis Enrique, c'est déjà le cinquième mandat pour 4 sélectionneurs en Espagne depuis le départ à l'été 2016 de Vicente Del Bosque, sacré champion du monde en 2010.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous, place au dossier du jour. À moins de quelques jours de la présidentielle, Bissau vit au rythme de cette élection. Les chars des différents partis sillonnent la ville pour inciter la population à voter. Et dans les taxis, moyen de locomotion privilégié, les Bissau-Guinéens discutent politique. Reportage de notre correspondante Darikaling Lopi.
Zé, 25 ans, est chauffeur de taxi dans la capitale de Guinée-Bissau, le transport privilégié des citadins. Au rouge et à l'heure encore juvénile, Fatou Camara étudie à l'université Augustino Netou. Pour elle, la priorité, c'est l'éducation.
Je voudrais que le futur président résolve la crise et améliore nos conditions d'études et aussi l'hôpital. Nos frères et sœurs ont fait des études, ont été formés, mais ne trouvent pas de travail.
À Bissau, on partage son taxi avec les autres clients. Fatou continue sa route avec ses coups d'emphare. Le quadragénaire s'engouffre dans la voiture. Fin d'une journée de travail et chemise toujours impeccable. La présidentielle, lui aussi, y pense.
Il y a beaucoup de problèmes. La population est fatiguée. Je voudrais que le futur président améliore la santé, l'éducation et l'accès à l'eau courante. Il n'y a pas d'électricité, pas d'école, rien en Guinée-Bissau.
Le chauffeur de taxi poursuit sa route. À bord de sa voiture blanche et bleue, lui aussi pointe du doigt le manque d'infrastructures.
S'il y avait beaucoup de routes goudronnées, les gens ne seraient pas obligés d'emprunter tous la même voie. Cette voie, c'est celle passant par le marché de Bandé en plein cœur de Bissau.
Zé prend un nouveau client. Sankou Baldé rentre chez lui, il est commerçant.
Vous savez, la Guinée-Bissau a de nombreuses richesses comme les noix de cajou, les mangues, les agrumes, mais on manque de formation. Rien n'est fait pour transformer nos produits bruts.
Pour Sankou Baldé, l'évolution de la Guinée-Bissau passera forcément par l'éducation de la jeunesse. Et les 12 candidats à la présidentielle du 24 novembre prochain l'ont bien compris. Tous en ont fait un thème de campagne. Tariq Alinlopi à Bissau pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la longévité au pouvoir en Afrique. Le président Paul Biya vient de célébrer ses 37 ans à la tête du Cameroun, alors que dans d'autres pays, le débat fait rage sur une modification de la constitution pour permettre aux dirigeants actuels de rempiler. Qu'est-ce qui explique cette longévité au pouvoir de certains dirigeants? Comment faciliter les alternances pacifiques en Afrique et éviter les transitions difficiles? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les nutritionnistes suggèrent de manger sain et équilibré pour préserver sa santé. Mais dans la capitale sénégalaise, nombreuses sont les personnes qui font fi de ces recommandations en consommant des aliments de qualité médiocre, souvent appelés malbouffe. Et pour la plupart, pour diverses raisons, la question sanitaire est reléguée au second plan, alors qu'elle devrait être au centre des débats. De notre correspondant à Dakar, le reportage de Sedina Abagay.
Obésité, insuffisance cardiaque, hypertension, diabète et même cancer, la malbouffe est accusée aujourd'hui de nombreux maux. Des scientifiques affirment même qu'elle peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du cerveau. Cependant, beaucoup de consommateurs comme Jean Diouf estiment que c'est un mal nécessaire.
Ici au Sénégal, quand tu prends quelqu'un, tu lui dis qu'il faut manger équilibré alors qu'on a nos habitudes là. Ça, c'est vraiment... ça va faire tache d'huile quoi. parce qu'on a un problème de temps et on ne peut pas rester à chaque fois à la maison préparer les repas. On est obligé, vu qu'on a une contrainte de temps, de venir ici prendre les repas.
Fort de la confiance des consommateurs, les gérants de fast-food proposent des produits peu communs et pas toujours sains, mais très prisés. Mamadou Diallo est propriétaire de fast-food.
Ça fait 15 ans que je vends du fast-food local. Il y a des gens qui viennent, qui te demandent des fatahs non complets à 300 francs. Si c'est complet, c'est 500 francs. Mais si tu as besoin de les hamburgers, les fatahs, les omelettes et les borsettes sandwich, voilà, il y a des sandwichs foie 600, sandwich yap 600, il y a sawarma. Sawarma, on le vend à 1000 francs.
Malbouffe est un terme péjoratif, mais il définit bien la nourriture à qualité médiocre consommée à travers le monde, des aliments riches en calories mais dépourvues de protéines et de vitamines, comme l'indique le docteur Aliou Mohamed Diallo. Des aliments sans qualité nutritive est dangereux pour la santé.
La consommation au long cours, effectivement, est à l'origine de maladies que nous voyons de plus en plus, des maladies d'ordre métabolique, mais également des maladies cardiovasculaires, comme le diabète, l'obésité, le surpoids, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, qui est même quelquefois une cause de mort subite, les insuffisances cardiaques, et même de cancer, parce que n'oublions pas que ces aliments-là sont produits à la base avec des produits industriels.
Le docteur Aliou Mohamed Diallo livre les bonnes habitudes qui permettent de préserver la santé.
Il faut une alimentation saine et équilibrée, donc avec moins de graisse, moins de sucre, moins de sel, plus de protéines, plus de vitamines et d'oligo-éléments. Mais en plus de ça, il faudra lutter contre la sédentarité, contre l'obésité, le surpoids, lutter également contre le tabagisme et l'alcool par une activité physique régulière, éviter de grignoter entre les repas, ce qui favorise le surpoids et l'obésité également.
À Dakar, Sedina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Un pic de nouvelles infections a été observé dans la tranche d'âge des 15-24 ans. Cette incidence est plus élevée chez la jeune fille selon la dernière enquête réalisée sur le VIH au Cameroun. Pour espérer inverser la tendance, des jeunes des établissements scolaires sensibilisent désormais leurs camarades sur cette pandémie. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Au Cameroun, la jeune fille court 9 fois plus de risques d'être infectée par le VIH par rapport aux jeunes garçons, si l'on s'en tient aux résultats de la dernière enquête réalisée par l'évaluation d'impact sur le VIH-Sida au Cameroun. Dans les établissements scolaires, les jeunes filles, pères éducateurs ou membres des clubs santé, ont pris à bras le corps la sensibilisation contre le VIH-Sida. Issues de 67 établissements scolaires du pays, elles ont reçu il y a quelques jours un important don de matériel de sensibilisation contre le VIH dans les locaux de l'ONG Synergie africaine qui lutte contre le sida et les souffrances. Jean-Stéphane Biacha, secrétaire exécutif de Synergie africaine.
C'est l'accomplissement d'un devoir chaque mois de novembre, en prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, qu'on puisse se rapprocher de nos cibles prioritaires, la jeunesse, à travers les établissements scolaires et les associations.
Raïssa, l'une des bénéficiaires, est une élève en classe de seconde au collège Fleming à Yaoundé.
Quand il y a des activités à l'école, je leur dis de s'abstenir, que le sexe peut attendre. Et même si ce n'est pas possible d'attendre, il faudrait mieux se protéger en utilisant des préservatifs.
Dans l'un des plus grands établissements de la capitale, le lycée général Leclerc, Gloria, élève en classe de première, est la vice-présidente du club santé. Elle focalise ses activités dans cet établissement sur la jeune fille.
Je dois sensibiliser la jeune fille, parce que la jeune fille doit connaître comment se défendre face à une maladie. Comme le VIH, un langage de jeunes. Il y a certaines têtes dures qui se montrent, mais c'est pour sensibiliser ceux qui sont prêts à suivre la formation.
Des élèves garçons mènent également des campagnes de sensibilisation contre la pandémie. Christian s'y est impliqué depuis 4 ans au lycée de Nkolnda, dans la périphérie de Yaoundé.
Nous avons souvent des campagnes de sensibilisation pour montrer aux élèves comment vivre avec une personne qui a le sida, comment est-ce qu'une mère qui a le sida peut enfanter, comment quelqu'un qui est porté de sida peut prendre ses médicaments.
d'autres structures viennent en appui à ces jeunes élèves. Parmi elles, le centre médical Navi, spécialisé dans le sévrage et la responsabilité des jeunes contre la drogue. Docteur Abel Messina, médecin en santé mentale.
Pour ces deux pandémies vont ensemble, le sida et la drogue. Si 10 personnes que je reçois par jour en consultation, j'ai au moins 6 jeunes scolarisés comme non scolarisés. Nous les prenons pour un traitement de sévrage.
En 2018, plus de 280 000 personnes vivaient avec le VIH au Cameroun pour un taux de prévalence de VIH de 3,4%, soit un taux d'accroissement de 10% par rapport à 2017. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé hier le changement de position des États-Unis sur les colonies juives en Cisjordanie occupée. Maintenant, l'administration Trump considère que ces colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés ne sont pas contraires au droit international. Zlatika Oké de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les administrations américaines ont changé de position au fil des décennies et que l'administration Trump fait la rupture avec l'approche de son prédécesseur.
Après avoir soigneusement étudié tous les aspects de ce débat juridique, notre gouvernement est d'accord avec le président Reagan. L'établissement de colonies de peuplement israélienne en Cisjordanie n'est pas en soi incompatible avec le droit international.
Jusqu'à présent, la politique des États-Unis reposait sur un avis juridique rendu par le département d'État en 1978, selon lequel l'établissement des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens était contraire au droit international. Aucun président américain n'a jamais revisé cette politique, mais tous ont évité de qualifier d'illégales les colonies juives, préférant les décrire comme un obstacle à la paix avec les Palestiniens. Mike Pompeo assure qu'une telle position n'avait pas non plus fait avancer la cause de la paix.
La dure vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de solution judiciaire à ce conflit. Les débats sur qui a tort ou raison n'apporteront pas la paix. C'est un problème politique complexe que seules des négociations entre Israéliens et Palestiniens pourront résoudre. Les États-Unis restent profondément engagés à faciliter la paix et je ferai tout mon possible pour aider cette cause.
Par cette décision, Washington change non seulement sa politique, mais va à contre-courant des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la 2334 qui considère les colonies comme une violation du droit international humanitaire, mettant gravement en péril la solution à deux États. L'Union européenne a aussitôt réagi en réitérant que toutes les colonies dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, sont illégales. Les dirigeants palestiniens ont rejeté toute médiation américaine depuis que le président Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ils veulent que Jérusalem-Est soit la capitale de leur futur État. Au Caire, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abolgaïd, a estimé que la décision de Washington compromet toute paix juste fondée sur la fin de l'occupation.
Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Firmin Max Koyaveda, à la console Jonah Cummings. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.